Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi et vous qui nous réveillez, bienvenue à Okapi Service. Nous avons dans ce studio l'ingénieur Alofou Ankenga Mundai. Avec lui, nous parlons des techniques pour obtenir une bonne récolte de riz. Ingénieur, bonjour une fois.
Oui, bonjour, monsieur le
président. Voilà, alors, pouvez-vous nous présenter un peu la cartographie de la culture des riz en République démocratique du Congo?
Ok, merci pour votre question. Concernant la cartographie de la culture des riz en République démocratique du Congo, les provinces les plus productrices de la culture des riz, nous pouvons compter le Maniema. Nous prenons l'Équateur, la province orientale, les Kasaï particulièrement dans le Sankuru et la ville-province de Kinshasa.
Alors, on peut dire aujourd'hui, la production a sensiblement baissé par rapport à il y a 15 ou 20 ans.
Oui, effectivement, je n'ai pas les statistiques en tête, mais avoir les pourcentages de riz importés, on se rend compte qu'il y a une baisse de la production de riz dans notre pays.
Alors, généralement, qu'est-ce qui serait dû à la baisse de la production de riz?
Bon, il y a plusieurs facteurs qui peuvent militer à cette baisse de la production. Premièrement, je dirais que les moyens ne suivent pas. Le gouvernement devait sérieusement aider les services spécialisés qui est chargé d'encadrer les paysans, les viticulteurs. Mais malheureusement, les moyens ne suivent vraiment pas, puisqu'il y a un sérieux problème des semences de qualité. Et pour produire les semences de qualité, il faut qu'il y ait des moyens. Et il faut donner suffisamment de moyens également pour essayer de procéder à la formation des paysans pour leur renforcement des capacités et également pour voir comment on peut également résoudre un des grands problèmes qui se trouve pour la culture des riz de bas-fond, surtout dans les poules Malévo ici, le problème des aménagements hydro-agricoles. Ça se pose avec Afritel parce qu'il y a, des inondations en cascade, il y a trop d'eau qu'il fallait également, nécessairement drainer. En mettant sur pied des aménagements hydro-agricoles. Mais les moyens ne suivent pas.
Alors, c'est vrai, vous avez évoqué autant de problèmes qui font que, disons, qu'on puisse connaître le cas de baisse de production. Mais dans quelles conditions, disons, c'est que baisse la culture de riz? Dans quelles conditions? Quelles sont les conditions pour arriver à produire le riz?
Bon, il y a d'abord deux types de cultures de riz, hein. Il y a les riz que nous appelons les riz inondés ou les riz de bas-fond qu'on fait généralement dans les vallées sous eau, la culture sous eau. Il y a également les riz pluviales. Les riz pluviales.
Le riz inondé, disons, c'est qui utilise la technique irriguée.
Oui, effectivement. Les riz inondés ou les riz irrigués.
Donc c'est
la culture qui se fait sous eau.
Sous eau, voilà. Oui. Et vous avez le deuxième, disons, la deuxième méthode, c'est le riz.
Le riz pluvial qu'on cultive généralement comme on fait la culture des maïs, et ainsi de suite.
Alors, avec les deux méthodes-là, quelle est la méthode la plus utilisée chez nous, en République démocratique du Congo?
Bon, ça dépend des milieux. À l'Équateur, par exemple, on fait beaucoup plus les riz pluvial. Et à Kinshasa, ici, c'est les riz inondés. Et vers les Sankuru aussi, on fait les deux, mais beaucoup plus les riz inondés aussi.
Voilà. Alors, quelles sont maintenant les conditions, d'abord pour le riz inondé?
Pour les riz inondés, le premier paramètre qu'il faut résoudre, ce sont les aménagements hydro-agricoles. Quand les aménagements ont été bien effectués, on peut mener à bien la culture des riz.
Ça, c'est la première condition.
Tout à fait. Et la deuxième, il faudra disposer de semences de qualité. Parce qu'il y a des fois où les paysans s'adonnent à utiliser des semences que nous appelons les tout venants.
Des semences
tout venants qui ne sont pas de bonne qualité, qu'on achète comme ça ou chez n'importe qui. Alors qu'il faudra les chercher soit dans les services spécialisés, il y a le PMR, il y a un projet de recherche aussi à l'INERA, on peut en trouver, voire même chez les agri-multiplicateurs qui sont reconnus par ces services-là.
Mm-hmm.
À ce moment-là, vous avez vos semences de qualité, et bien entendu, après, il faudra suivre toutes les techniques nécessaires qui permettent à ce que vous puissiez mener à bien votre culture.
Alors, vous avez parlé de ces deux conditions. Mm-hmm. Est-ce que le sol n'entre pas aussi en ligne de compte? Les conditions du sol.
Justement, quand nous parlons des
aménagements... Nous sommes déjà là au niveau de... nous parlons des riz inondés,
oui.
Donc il faut dans un endroit marécagé, par exemple.
C'est dans un endroit marécagé, bien entendu, il faut contrôler aussi de l'eau. C'est ainsi que nous avons dit qu'il faut qu'il y ait, disons en amont, qu'on fasse déjà des aménagements hydro-agricoles. Parce que la quantité d'eau requise doit être à un niveau optimal. Hein.
Mm-hmm.
Quand c'est trop, ça dérange la culture. Quand c'est moins, ça dérange aussi la culture.
Et ça exige quand même un pH, donc le potassium d'hydrogène.
Et tout à
qui
fait.
Et de combien à peu près?
Le pH, généralement, c'est pH neutre. Hein.
Oui.
Plus ou moins.
C'est-à-dire?
Dans l'ordre de plus ou moins aux alentours de 7.
De 7. Et voilà, nous allons rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent également participer à cette émission. Vous qui êtes paysan et vous êtes engagé dans cette culture de riz, vous posez sans doute quelques questions, vous avez quelques préoccupations par rapport aux conditions. Et aujourd'hui, nous parlons de techniques pour obtenir une bonne récolte de riz. Ben, là, on a abordé d'ailleurs la question sur les riz inondés. Nous rappelons que vous pouvez participer en composant, bien entendu, 081 890 63 94 pour les appels ou encore nous écrire à service@radiocapi.net. Nous avons deux auditeurs en ligne, Guilin Kwarusu de Beni au Nord Kivu, Soupinyembo à Kalima au Maniema. Bonjour Guilin.
Bonjour monsieur le journaliste.
Quelle est votre préoccupation Guilin?
Oui, j'aimerais savoir, mon père a 2 hectares de riz. Alors, c'est un riz, allô?
Allez-y, on vous écoute, Guilin.
Oui, c'est une plantation, bon, de 2 hectares. Alors, c'est pas une inondation. Alors, ce qui nous cause problème, c'est il y a une affluence vraiment massive des oiseaux. Alors, je ne sais pas si il peut y avoir une technique pour la capture, pour capter les oiseaux, ces oiseaux-là, nous dérange vraiment. Alors, les riz commencent à germer, à pousser.
Merci beaucoup, Guilin. Soupi Nyembo, vous êtes à Kalima, au Maniema. Bonjour, Soupi.
Bonjour, Gérard Longembo. Bonjour à notre invité. Ici, chez nous, à Kalima, nous sommes vraiment entourés par la forêt. Nous en avons trois places pour planter la semence, bien sûr, du riz. Mais je demande à notre invité, la première place, c'est là, à la forêt. La deuxième place, au désert, et la troisième, au marécage. Mais parmi ces trois places, laquelle vraiment est suffisante, et donc que les cultivateurs peuvent planter leurs semences du maïs pour avoir assez...
Pas le maïs, le riz, nous parlons des riz. Et d'ailleurs, le Maniema, Soupi, nous rappelons que le Maniema est compté parmi les provinces productrices du riz, hein, les plus grandes productrices du riz, en République démocratique du Congo. Monsieur Alofou, vous avez suivi l'intervention de Soupi, qui parle de la forêt, du désert, et puis de sites marécageux. Quel est normalement le site qui peut être approprié normalement pour le Maniema? Peut-être vous avez une idée?
Bon, celui du Maniema a parlé plutôt du dérangement des oiseaux.
Non, celui de Beni, au Nord Kivu, qui parle plutôt du dérangement des oiseaux. C'est pourquoi j'ai commencé par ce pays. Bon, alors on peut prendre d'abord la réponse pour Guilin, qui parle des oiseaux.
Oui, effectivement, et un des grands facteurs qui dérange la culture des riz, c'est le problème des oiseaux. Et le problème des gardiennages, c'est un problème à régler sérieusement. Mais pour les aider, j'aimerais qu'ils essayent de faire ce que les amis, nos amis paysans de Kingaboy ici au Poule-Malébo font. Dès qu'il y a floraison, ils engagent quelqu'un, ou voire un ou deux individus, qui sont en permanence au champ, avec des cailloux, des cloches, tout. À tout moment, ils sont entrés dans les quatre coins du champ, en train de pourchasser les oiseaux. Ça, c'est la première des techniques. Ou s'ils peuvent avoir disposé des moyens, ils ont des filets de part et d'autre du champ. Quand les oiseaux viennent, ils sont retenus par les filets. Ou encore, pour éviter de connaître de grosses pertes aussi,
à
Kingaboy, ils font ceci, ils s'arrangent pour cultiver au même moment. Donc, pratiquement tous les paysans cultivent au même moment. Ce qui fait que quand les oiseaux arrivent, leur impact par champ diminue. Mais si vous travaillez seul, toute cette masse des oiseaux là, va tomber sur votre propre champ. Mais quand c'est tout un amalgame des gens, bon, ils sont un peu à l'aise, ils peuvent venir tout en associant les gens qui les poussent.
Là, vous minimisez quand même
effectivement l'impact de tout ce que les oiseaux peuvent causer comme dégâts au champ.
Voilà, alors c'était Nimbo à parler de la forêt, les déserts et puis le site marécageux. Voilà, que répondez-vous à ce petit?
Bon, là, je dirais que...
Là, nous sommes au maniement.
Oui, ça dépend des variétés qu'on voudrait utiliser. Il faudrait qu'ils se renseignent sérieusement auprès des techniciens. Je crois qu'au maniement, il y a des ingénieurs agronomes qui peuvent les aider. Les variétés que nous appelons les variétés de riz pluvial, on peut les faire là où ils parlent de la forêt. Mais là où ils ont des marécages, il faut qu'ils utilisent les variétés de riz
irrigué.
C'est ça.
Voilà. Alors, au niveau des déserts, c'est...
Au niveau des déserts, j'ai le conseil, parce que le riz est une culture qui aime beaucoup d'eau. Et dans le désert, le sol est pratiquement trop sableux. Et il y a vraiment... Il y a une grande porosité, il y aura trop d'évaporation. Ça va être difficile, la culture des riz pour les réussir au niveau du désert.
Alors,
on peut amender les sols, mais ça va demander beaucoup de moyens.
Alors autour de montagne, parce qu'au niveau de vallée, peut-être il y a un peu d'eau, peut-être il y a des coins quand même marécageux,
oui.
Mais au niveau de montagne...
Au niveau de montagne, on fait aussi les riz pluviaux.
Les
variétés de riz pluvial.
Voilà, alors nous avons parlé de riz inondé. Il faut premièrement s'adonner à l'aménagement hydro-agricole.
Oui.
Et deuxièmement, disposer des semences de qualité.
Oui.
Éviter des semences tout venant, c'est ce que vous avez dit.
Mmh.
Et puis, par après, donc, quand vous êtes sur un site marécageux,
oui.
Il faut avoir un pH de potentiel d'hydrogène autour des 7, hein, autour
oui.
des 7, voilà. Comme ça, vous pouvez déjà vous lancer. Mais qu'en est-il du riz pluvial? Quelles sont les étapes?
Le riz pluvial, c'est d'abord le semis.
Le semis?
Le semis se fait en pépinière. Hein? Et ce qu'il faut d'abord faire, on prend les semences. Quand nous avons parlé des semences de qualité, bien calibrées, bien préparées, on les trempe dans l'eau pendant 24 heures. On les trempe dans l'eau pendant 24 heures. Et après 24 heures, on va se rendre compte que les grains qui sont mal formés vont flotter au-dessus et les grains bien formés vont rester au fond. 24 heures après, vous enlevez les grains mal formés qui flottent, vous retirez les bons grains, vous les étalez au soleil pendant 48 heures. Et c'est ça qu'on appelle la pré-germination. Et pendant que vous faites ça, votre pépinière est déjà en préparation. La pépinière ne doit pas se trouver très loin du champ. Vous préparez votre pépinière. Généralement, la pépinière est une plate bande plus ou moins de 10 mètres de long et sur 2 mètres ou 1 mètre et demi de large.
Et le tracé doit bien
respecter. Ce sont des plates bandes. On les fait très bien.
Et
d'ailleurs, ceux qui font les champs, ils voient comment les maraîchers travaillent. Ils préparent ça très bien, bien amendé avec de la matière organique. Souvent, on utilise la paille. Hein. Et On vient maintenant, on prend ces grains-là qu'on avait étalés, on vient semer en pépinière.
Alors, pour les riz pluviales, le sol aussi, normalement, il y a des conditions liées au sol. Pas trop de phosphore, pas trop d'azote, ou je ne sais pas, le pH doit être de combien, le potassium d'hydrogène.
Bon, généralement, dans nos différentes cultures ici,
nous parlons de pH, les communs des mortels ne savent pas parce qu'ils ne font pas le dire, mais il faudrait quand même expliquer comment ils peuvent, même dans une gala, pH des animaux. Parce que c'est le potentiel d'hydrogène.
Bon, à ce là c'est un peu difficile.
La quantité anime. Ah, il a dit ma quantité anime.
Au fait, quand on parle de pH, on dit potentiel en hydrogène. C'est-à-dire qu'on veut voir l'acidité du sol. Hein?
Oui.
C'est l'acidité du sol qu'on
Donc,
voit. Généralement,
l'acide, hein, tout le monde, c'est acide, voilà.
Généralement, les sols acides ne sont pas assez fertiles.
Voilà.
Généralement. Les sols les plus fertiles sont les sols dont le pH avoisine le pH neutre, donc aux alentours des 7 là.
Donc quand il y a trop d'acide, c'est...
Le sol généralement n'est pas fertile.
Voilà. Alors donc les autres de sol, l'azote, le phosphore,
ouais,
pour le cas de riz pluvial.
Pour le cas de, que ce soit les riz pluvial ou les riz de bas fond, le sol doit avoir ici une bonne quantité de phosphore, d'azote également. Et d'ailleurs, il y a de ceux qui utilisent les engrais. Déjà, pendant la préparation du sol, ils utilisent les engrais de fond comme le NPK. Et après, pendant la culture, à la floraison, là, vers la fin, ils utilisent encore de l'urée. Donc, c'est comme pour dire que le sol a besoin de, surtout de ces trois éléments-là. L'azote, le phosphore, le potassium.
Voilà, on va parler bientôt des éléments là de la récolte. Quelles sont les techniques utilisées pendant la récolte pour éviter quelques pertes. Mais nous rappelons à nos auditeurs qu'ils peuvent également nous faire parvenir leurs préoccupations et pourquoi pas leurs questions au 081 890 63 94 pour les appels ou encore au 081 070 20 50 pour les SMS.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 10h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Voilà, ingénieur Aloukou Ankenda Mundaï, vous êtes le coordinateur national adjoint du programme national de riz en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, si, disons après avoir préparé le sol, après avoir cultivé, nous passons maintenant à la deuxième étape, c'est la récolte. Et là aussi, il y a quand même quelques exigences.
Tout à fait. Tout à fait. D'abord, il faut savoir identifier le moment de la récolte. Parce que si vous l'identifiez tôt, c'est mieux. Si vous l'identifiez tard...
Est-ce que ce moment-là est le même pour les riz inondés que pour les riz pluviales?
Oui, c'est presque le même. Hein?
Mm-hmm.
Quand on cultive, il faut se rendre compte que le moment de la récolte est arrivé. D'abord, sur le plan théorique, quelqu'un qui n'a pas encore cultivé, dès qu'il commence, il surveille toute sa culture du début jusqu'à la floraison. Dès qu'il se rend compte que la floraison est totale, donc il y a au champ là pratiquement tous les plants ont fleuri, il note et à partir de cette date-là, il se contient un mois. Un mois après, il est déjà rassuré qu'il pourra déjà récolter. Mais pour quelqu'un qui est au champ, qui travaille déjà, il suit sa culture au jour le jour. Dès qu'il se rend compte que la panicule là, qui contient les épis, dès qu'il se rend compte que les trois quarts sont colorés en jaune paille, à ce moment-là, il peut être déjà rassuré que le moment de la récolte est arrivé.
Voilà, alors le moment de la récolte est arrivé, comment s'y prendre, comment il faut enlever le riz, et que faire concrètement?
Ok, dès qu'il se rend compte que le moment est arrivé, il faut qu'il prépare d'abord le matériel. Et là où les gens disposent d'une batteuse, c'est une machine qu'on utilise pour battre les riz, on a la batteuse, les sacs vides, Il y a, on utilise également la faucille et un couteau, la tranchant, qu'on utilise. Et donc, j'ai dit la batteuse, les sacs vides, la faucille et même des bâches, hein, qu'on peut utiliser, on coupe, on amène à la batteuse. Bon, là où on ne dispose pas des batteuses, puisque parfois quand nous descendons sur le terrain, on trouve des paysans qui travaillent avec des moyens pauvres. Oui, bon. Vous trouvez là, ils ont une bâche, des sacs vides, ils ont leur couteau. Après avoir coupé la panicule, ils étalent un gros morceau de bois là, un tronc d'arbre. Ils commencent à battre la panicule sur le tronc et le paddy tombe soit sur le bâche et ils mettent dans le sac.
Voilà, alors nous avons en ligne Jean-Pierre Simba, qui nous appelle de Taléni, et Emmanuel Katumbi à Goma, au Nord Kivu. Jean-Pierre Simba, bonjour.
Allô, bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
Ok, je voudrais poser une petite question à notre invité, votre invité.
Oui, allez-y.
Ok, c'est ça, par rapport à l'apport de Tiffany, par rapport à cela. Le riz de montagne ou le riz de l'eau, ça. Est-ce que l'apport ne se dit pas que le riz est le plus, c'est le même ou il y a une différence? Et aussi, au niveau des calories, nous avons le riz de Kabimba, nous avons le riz de Kondo, et pour ça, celui que nous amène. C'est le riz qu'on a broyé dans le morceau. Est-ce que ce riz-là, la pomme nutritive, est de bonne qualité par rapport au riz de morceau, par rapport à la machine, pourquoi?
Merci beaucoup, Jean-Pierre Simba. Emmanuel Katumbi, vous êtes à Goma, au Nord Kivu. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour.
Oui, Emmanuel, quel est votre
question? Je voudrais juste savoir, parce qu'en regardant la cartographie de la culture de riz, au Congo, vient de comprendre que c'est un peu partout là où il y a production de riz. Maintenant, je voudrais poser à notre invité si pourquoi il y a tant d'importations, parce que si vous voyez bien, Goma, on consomme et un riz qui vient du Pakistan. Pourquoi cela?
Merci beaucoup, Emmanuel Katumbi. Et un coucou à tous ceux qui nous suivent à Goma et aussi à Kalemi. Voilà, nous avons à Lupu Ankenda Mundai, qui est le coordinateur national adjoint du programme national de riz en République démocratique du Congo. Vous avez suivi les deux interventions. La première, celle de Jean Kisimba, qui parle de riz des montagnes et de riz de l'eau. Quelle est la différence, d'ailleurs, au niveau de l'apport nutritif et aussi en calories. Il constate que les riz qui proviennent du Congo, l'eau et de Kabinda, sont un tout petit peu différents. Vous qui connaissez bien, vous qui travaillez dans le programme, peut-être vous avez une idée pour nous en faire, disons, une idée claire là-dessus, à l'autre mot.
Oui, merci. J'ai suivi les deux intervenants. Mais je pense que la culture des riz, que ce soit les riz pluviales ou les riz inondés, ce sont des produits qui sont juste riches en énergie, en glucides. Donc il n'y a vraiment pas de différence significative en ce qui concerne la qualité. Donc on vous présente les riz pluviales ou les riz inondés, quand après cuisson, vous allez vous rendre compte que c'est du riz. Il y a juste des petites différences qui ne sont pas très significative aussi sur le plan de la qualité nutritive. Mais pour le premier intervenant, qui a dit que les riz qu'on broie dans des mortiers, non, là, ça contient beaucoup d'impuretés et le décorticage ne se fait pas très bien. Il y a tellement d'impuretés que quand vous consommez, vous sentez vraiment qu'il y a, vous le sentez même dans la bouche, il y a beaucoup d'impuretés,
et là, même la présence de sable,
ça diminue la qualité du produit, et puis il y a un grand pourcentage de brisures, et là ce n'est pas intéressant.
Et Emmanuel qui parle de l'importation, ben c'est vrai, vous avez présenté la cartographie, ça rend compte que notre pays est
à produire.
Bon, ben voilà pourquoi on les continue à importer.
Oui, effectivement, cette situation est très inquiétante. Et là, je saisis cette opportunité pour lancer un appel au gouvernement de notre pays, en particulier au président de la République. Avec tout ce qu'il a comme programme aujourd'hui, nous avons suivi son discours programme où il a parlé de la relance du secteur agricole. Et je lance également un vibrant appel au gouvernement qui sera mis en place et bien entendu au Parlement qui est déjà opérationnel. Parce qu'un des grands problèmes qui dérange l'agriculture de notre pays, c'est un problème de budget. Le budget alloué à l'agriculture est insignifiant. C'est dans l'ordre de moins de 3%. Alors que notre pays est signataire des accords de Maputo, où les pays de la SADC et même de la COMESA avaient décidé que pour relancer l'agriculture dans leurs pays respectifs, il faut allouer à ce secteur un budget d'au moins 10%.
Et aujourd'hui, nous sommes autour de combien?
Nous sommes à moins de 3%.
Moins de 3%.
Vous imaginez.
Voilà, je crois que c'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Monsieur Aloufou Ankenda Mundai, vous êtes coordonnateur national adjoint du programme national des riz en République démocratique du Congo. Avec vous, nous avons abordé la question sur les techniques pour obtenir une bonne récolte de riz. Merci d'avoir accepté notre invitation et bon week-end.
Merci, c'est moi qui vous remercie.